Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc ta fille qui a aujourd'hui 4 ans.
3 ans et demi.
Bientôt. Mm-hmm. Pardon, c'est très important.
Ah, les demi, tu sais, à cet âge-là, ça compte. Hein. Ah ben, elle aura 4 ans en août. Donc ouais, on est vraiment à 3 ans et demi. Et qu'est-ce que tu veux que je dise sur ma fille?
Non, mais je me demandais un petit peu pourquoi t'étais émue comme ça.
Bah non, je... Non, mais je parle pas souvent de mes enfants, des inconnus. Donc c'est quand même toujours un peu étrange et...
Tu savais pas que tu venais parler dans l'histoire de Zard. Tu t'étais pas préparée.
Non, mais je pensais... Enfin, tu vois... Je pensais qu'on parlerait beaucoup de mon asso, et du militantisme, et de ça, et de ce que c'est d'être parent. Mais parler de ses enfants, c'est pas un truc que je fais souvent.
Ok. T'es à l'aise avec ou...
Ouais, ouais,
tu,
ça va, je suis très contente. Je les adore, ils sont super. Hein,
non, non, je veux dire, est-ce que t'es à l'aise avec le fait d'en parler?
La fille.
Incroyable.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute.
Claire, bienvenue donc dans Histoire de Daronne.
Merci.
Quel plaisir de t'avoir au micro. C'est cool. Je t'avais découvert par ton association, dont on va parler un peu plus longuement dans cet épisode. Et on va également parler de ton histoire de Daronne, finalement. Ton asso qui s'appelle Parents et Féministes.
Tout à fait.
Qui, globalement, dit bah, en fait, on peut être parent et féministe.
Voilà. C'est même conseillé.
Conseillé. Vous devez. Ouais. Putain, parents et en thérapie, en fait. Je crois que c'est. Pour y avoir une autre.
Et le sous-titre de notre asso, c'est donc « Parents et féministes pour une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme ».
Waouh. C'est un beau projet de société, quoi.
Mmh. Ouais.
Vous avez lancé ça quand ?
L'asso a été créé en 2019 par un petit groupe de mères autour d'un café. Et maintenant, on est, je dirais, une cinquantaine de membres entre Paris et Rennes. Ça a bien grandi.
Ok. Mmh. Et l'objectif, c'est d'ouvrir encore d'autres antennes ou...
Oui, bah, idéalement, oui.
Là, tu as des gens qui t'écoutent.
Hein. Ouais. Alors,
tu as des potentiels bénévoles.
On aimerait beaucoup grandir, mais pas trop vite. Et on a d'ailleurs, pendant un temps, mis une pause aux adhésions parce qu'on a eu un afflux de demandes, notamment pendant les confinements. Ouais. Les gens étaient chez eux. Et... avait plus de temps pour militer, bizarrement. Donc, on a dû à un moment donné arrêter. Et l'important pour nous, c'est quand même d'avoir des bénévoles et des volontaires actives, de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire qui apportent vraiment une réflexion, une compétence et qui sont motivés pour mener des projets, plutôt que juste, bah, je vais donner 5 euros par an. La cotisation, c'est 5 euros par an. Je vais juste donner mes sous, dire que je soutiens, recevoir la newsletter et basta.
Ouais.
Parce qu'en fait, ça ne va pas vraiment mener à grand-chose. Mmh. Donc, on en est un peu à là. C'est-à-dire qu'on n'est ni petit ni grand, on est un peu entre les deux et on ne sait pas très bien encore ce que ça va devenir. Mmh. Mais on est évidemment ravis que les gens nous sollicitent. Et puis, notre Instagram a bien grossi, donc les gens nous suivent sans pour autant être membres, par exemple. Donc, on est aussi une communauté.
Ouais. J'allais dire, pour moi, l'un des enjeux dans les assos, quand elles grandissent un peu, c'est de réussir à grandir tout en gardant un peu l'intention du départ, quoi.
Ouais, c'est ça.
Plus tu fais rentrer de gens, plus il y a de potentialité pour que, je sais pas, il y ait des... c'est hyper connu dans les partis politiques, etc. Il y a toujours un truc où c'est dur de réussir à garder une ligne, en tout cas la même intention du départ, quoi, au fur et à mesure que tu grandis.
Oui, parce qu'il y a une multiplicité des voix, que c'est plus dur de se réunir. Quand on fait notre assemblée générale, on la fait à moitié en visio parce qu'en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la date. Que même les membres fondatrices, parfois, il y en a qui partent ou qui sont moins audibles. Et donc, il faut garder le cap. Nous, on a une charte des bonnes pratiques qu'on donne à tous les nouvelles membres et puis qui est sur notre site internet. On voulait faire un manifeste, on ne l'a jamais écrit, mais bon, un jour on le fera. Mais c'est vrai qu'il faut garder le cap et en même temps être ouverte à...
à des nouvelles têtes et des nouveaux membres. Et, oui.
Et puis et aux impulsions qui viennent de part et d'autre de l'assaut. Mais c'est vrai que c'est important de garder quand même l'idée de départ. Et c'est pour ça que ce sous-titre pour une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme, ça n'a jamais bougé. Et a priori, ça ne bougera pas, je crois. En tout cas, moi, je suis assez fière de ce sous-titre qui dit tout et qui permet toujours de se recentrer. Parce que parfois, par exemple, sur les réseaux sociaux, on se demande est-ce qu'on peut publier sur ceci, est-ce qu'on peut publier sur cela, est-ce qu'on réagit à tel truc d'actu, est-ce qu'on relaye telle pétition ou telle tribune. Et les gens donnent leur avis. Et à la fin, on se demande est-ce que c'est dans le spectre de notre travail. Voilà, et ça permet quand même de trancher assez rapidement. Mais on voudrait parler sur plein de sujets.
Bah oui.
Et en féminisme, il y a 1000 sujets, il y a 1000 féminismes aussi. Mais voilà, on essaie toujours d'être un peu précise et rester dans le scope de la parentalité et le sexisme dans l'enfance.
C'est vrai qu'avec Instagram, maintenant, vous êtes aussi un média, vous n'êtes pas juste une asso, quoi.
Écoute, je sais pas si on a un média. Oui, on fait passer des messages. Oui,
quand t'es déjà en train de réfléchir à tiens, est-ce qu'on parle de ça ou on parle pas de ça, ça pour moi c'est des prises de tête de médias, quoi. C'est trop intéressant. Mais parlons un peu de ta maternité, si tu veux bien, et de ton désir de maternité. Comment t'es venu ton désir de maternité, Claire?
Eh bien, quand j'étais petite. Je me disais que j'aurais deux enfants plus tard. C'était un peu une évidence. Parce que j'ai été élevée comme une petite fille. J'ai été élevée comme une petite fille. Donc, c'est-à-dire avec des idéaux très féminins de l'époque, dans les années 80-90. Et donc, j'avais des poupées, des poussettes et des Barbies. Et que c'était normal de vouloir se marier, avoir des enfants. Donc, jusque-là, tout est normal. Et ce désir d'avoir des enfants, en fait, le désir dont tu me parles, qui n'est pas donc celui dont moi je parle là, c'est un peu pour la blague, il est arrivé un peu plus tard, vers l'âge de... En fait, à l'orée de mes 30 ans, j'ai senti que c'était un sujet. Genre, ok, maintenant t'as 30 ans, fini de rigoler, maintenant il faut faire des enfants. Et donc ça, je l'ai senti très fort.
Il faut faire des enfants.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai senti l'injonction de bon, allez, 30 ans, t'as vécu ta jeunesse, t'as amorcé une carrière, t'as bien rigolé, t'as voyagé, tout ça. Maintenant.
Fini la rigolade.
Ouais, c'est un peu fini la rigolade. Et on te fait sentir que, bon, bah, l'horloge biologique, voilà, il va pas être sympa avec toi, quoi. Donc.
Quand tu dis on te fait sentir, t'as un exemple en tête ? T'as un truc qui t'a marqué en particulier ou... Parce que on, c'est qui ce bah, on ?
Non, mais ce on,
c'est la société,
c'est...
j'entends
oui,
bien.
Non,
mais
bien sûr. Bah non, mais c'est des réflexions qui viennent de toutes parts. C'est bon, bah, il va falloir y penser. Non, mais surtout quand t'es en couple. Parce que j'étais en couple avec mon compagnon depuis un petit bout de temps. Et donc, les gens se permettent quand même très naturellement et de manière bienveillante hein, de te dire ou de vous dire, mais c'est souvent à moi qu'on me le disait. Alors, c'est pour quand ? Quand est-ce que vous vous y mettez ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Et bon, c'est des trucs hyper intrusifs. Quand on y pense, 2 secondes, c'est hyper intrusif. Et parce que les gens pensent bien faire, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité des gens.
Et je sais pas d'où sort ce truc qui est tout à fait accepté, acceptable. Alors de moins en moins, et j'entends de plus en plus, tu vois, des gens d'une manière générale dans le podcast dire « bah, c'est pas tes oignons, quoi ». Et donc c'est bien parce qu'à chaque fois, j'en profite pour dire « ne posez pas les questions, c'est ultra relou, ne faites pas ça si c'est votre cas jusque-là ». Mais c'est vrai, je ne sais pas d'où ça vient.
Ouais, bah de la tradition nataliste de la France.
Tout à fait. Du réarmement démographique avant que ce soit un réarmement.
Voilà. Donc c'est un héritage post-Seconde Guerre mondiale, hein, je crois, de pousser les gens à faire des enfants et puis d'une société hétéronormée, patriarcale, qui dit que bah, t'es une femme, t'as 30 ans, évidemment que tu vas avoir des enfants,
oui.
Évidemment que tu en veux. Et puis on pense, enfin à l'époque en tout cas, on ne pensait pas déjà au désir, au non-désir d'enfant, mais on pensait pas, on n'avait même pas idée que quelqu'un pouvait être avoir des difficultés à concevoir, ce qui n'a pas été mon cas. Mais moi, j'y pense toujours quand je parle avec mes amis, que ce soit des hommes ou des femmes. Maintenant qu'on sait que quand même, je veux dire, beaucoup de couples ont recours à la PMA et ne le disent pas forcément, maintenant, moi, je me garde bien de faire des blagues sur « Mais donc, vous en avez mis du temps !» Bah, en fait, on ne sait pas quel a été le parcours. Donc... voilà, le « on », il est, c'est les copains, les copines, les familles, c'est tout le monde, quoi.
Et je trouve ça cool que, tu vois, on en parlait juste avant d'enregistrer, que la parole finisse par se libérer aussi sur le sujet, parce que, en fait, pour moi, il y a beaucoup de souffrance qui est cachée derrière tous ces, justement, tu vois, ces couples, ces personnes qui ont du mal à concevoir d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est hyper cool d'en parler avec ses amis, et le fait que ce soit une honte, quelque part... C'est de la merde, en fait. Il faut vraiment qu'on change ça. Et il faut vraiment être capable de venir en causer, quoi. Tu vois. Donc, c'est chouette, quelque part, que ça se fasse. Et il faut encourager, tu vois.
Ouais.
La vulnérabilité, même si j'entends que c'est pas fastoche et que ça crée des vraies douleurs, quoi. Mais en tout cas, ça n'a pas été ton cas.
Non, je suis tombée enceinte assez rapidement. Du coup, moi j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 33 ans, après beaucoup de tergiversations. C'était pas une évidence, ce désir d'enfant, pour répondre à ta première question, ce désir d'enfant, c'était pas évident parce que c'est arrivé, j'ai choisi un peu sur un coup de tête, c'est-à-dire que j'ai longtemps hésité parce que j'avais peur que ça nuise à ma carrière. Je venais juste d'opérer une reconversion professionnelle en fait, j'étais danseuse avant. Et vers l'âge de 27-28 ans, je me suis réorientée pour devenir comédienne. Et donc, j'étais un peu au début d'une nouvelle carrière et j'avais vraiment peur de me tirer une balle dans le pied, en fait, d'avoir des enfants et qu'en fait, je n'arrive plus jamais à retravailler correctement. J'avais l'impression que mes belles années, c'était celle-là, en fait, hein, que c'était mes 30-35 ans et qu'il fallait travailler au maximum à cet âge-là et ensuite, éventuellement, devenir mère.
C'était dur pour toi de concilier maternité et une forme d'ambition professionnelle ?
Intellectuellement, ouais. Ouais. Pour moi, il y avait une vraie, conflit entre le désir de maternité et le désir d'accomplissement professionnel. Et j'arrêtais pas de les mettre ensemble comme ça, j'arrêtais pas de les faire s'entrechoquer. Et un jour, j'ai eu une conversation avec Ludivine Sagnier. Ludivine, je t'embrasse. Qui, elle, avait 3 enfants, et on était à un café. Et
si vous ne l'avez pas, Ludivine Sagnier, c'est une grande actrice française.
Voilà. Une comédienne. Et Ludivine, on parlait des enfants, de ses enfants, et je disais, mais comment tu fais ? Mais c'est fou, enfin, moi j'ai trop peur, j'ai trop peur, Ludivine, j'ai l'impression que je ne travaillerai plus jamais. Et Ludivine m'a dit très simplement, tu sais, avoir des enfants, ça va pas t'empêcher de travailler. Ça fera de toi une meilleure artiste.
Punchline.
Et je t'assure, cette phrase, c'est celle qui m'a fait passer le cap. C'est grâce à elle. Et je lui dis à chaque fois que je la vois, elle a oublié cette conversation. Mais à chaque fois, je lui dis, c'est grâce à toi que j'ai fait mon premier enfant. Tu m'as donné le courage. C'était l'argument clé. Et elle avait raison.
Qu'est-ce qui, avec le recul, là, aujourd'hui, donc, ton fils a 6 ans, c'est ça ?
Oui, il va avoir 6 ans.
Il va avoir 6 ans. Avec le recul, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle voulait dire par là ? Ou ce que tu en as compris, ce que tu en as retiré ?
Ouais, moi, ce que je comprends aujourd'hui dans ce qu'elle m'a dit, c'est... Tes enfants vont te changer, vont te faire évoluer de telle façon que ton métier va prendre encore plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance. Quand on est parent, on a très peu de temps pour soi, du temps effectif, mais aussi du temps mental, de l'espace mental. Et donc le temps consacré à son art, en l'occurrence moi, la comédie, il est d'autant plus précieux que j'en ai pas beaucoup. C'est ça que moi que j'entends, c'est... ça donne un côté précieux. Quand je pars travailler, en ce moment je suis au théâtre, quand je passe la porte de chez moi pour aller au théâtre, chaque seconde est une seconde précieuse, quoi. C'est vraiment à la fois une libération, quand même, de laisser mes enfants chez moi en pyjama.
C'est important de le dire.
Ouais, non, franchement, je l'assume. Il y a ça, il y a la libération de mes devoirs de parents, de ma responsabilité, et une sorte de cadeaux qu'on me fait d'aller quelques heures travailler. Et, mais parce que je fais un métier que j'aime aussi. Hein. Mais, et l'autre versant, c'est aussi, quand elle dit tu vas devenir une mère artiste, en tant que comédienne, d'être mère, ça m'a rendue quand même... Je ne sais pas si je suis vraiment une meilleure comédienne, mais en tout cas, j'ai une vie intérieure un peu plus riche, je crois, qu'avant d'avoir des enfants.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je suis remplie de beaucoup... Enfin, mes enfants, en fait, m'ont appris plein de trucs sur moi, sur mon enfance, mais sur la vie en général. Ils me rendent plus empathique. Et puis, ils te déplacent, ils te décentrent, les enfants. Je suis beaucoup moins dans l'ego, je suis beaucoup moins sur moi. Donc, se déplacer, se décentrer, ça fait, je trouve, de soi une meilleure comédienne.
Une meilleure personne d'une manière
et
générale.
Une meilleure personne aussi.
J'imagine, en tant que comédienne, est-ce que tu as la sensation que ça t'a ouvert à une forme d'empathie qui te permet de pouvoir peut-être mieux comprendre les rôles que tu joues aujourd'hui ou...
Ouais, je pense. Ouais, je pense. Okay. Et souvent, quand j'aborde un rôle, j'essaye de me dire qu'est-ce que mes enfants peuvent en comprendre. Qu'est-ce que ce rôle-là, comment je pourrais expliquer ce rôle-là à mon enfant? Ou qu'est-ce que mon enfant verrait en. Si je la jouais comme ci ou comme ça. Alors moi, la pièce que je joue en ce moment au théâtre, elle n'est pas pour enfants, donc ils ne la verront pas. Mais je pense à eux souvent sur scène.
Ok.
Ouais.
Ça te fait faire un pas de côté, en fait, cette expérience-là, par rapport à... Pas si tu n'avais pas eu d'enfant, par exemple.
Ouais, certainement. Ouais.
Ok. C'est intéressant.
Donc Ludivine, je ne sais pas Ludivine. Du tout si c'était ça, à ça que tu pensais, mais voilà ce que ça me fait.
Merci Ludivine d'avoir participé au réarmement démographique de la France et d'avoir persuadé Claire de devenir maman.
Ouais. Non mais heureusement qu'elle a fait ça, parce que j'étais vraiment pas...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast,
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
J'étais pas bien.
Je trouve ça incroyable, justement, et c'est un super conseil, je trouve, d'aller poser la question, de pas avoir peur d'aller poser la question de « mais comment tu fais, comment ça se passe, voilà ce dont j'ai peur, etc. » d'aller causer un petit peu aux personnes qui ont plus d'expérience que soi, quoi, je trouve.
Ouais. Il faut jamais hésiter à poser des questions.
Ça t'a fait peur à la base de lui poser cette question ou c'était dans une discussion entre amis
Ouais, non, on était à un café avec d'autres copines. C'est venu assez naturellement. Okay. Et en plus, elle était avec son bébé, donc on était dans un cadre vraiment intimiste. Non, j'ai pas eu peur.
Parce que c'est pas forcément... Enfin, tu vois, je vois ça comme pas forcément très évident de venir questionner sa maternité ou l'envie de maternité quand on est une femme, non? Peut-être que je me trompe. Ou surtout si t'as des injonctions en permanence de « c'est ça qu'il faut que tu fasses ».
Bah écoute, sans doute que je me sentais en confiance et j'étais, je crois que j'étais tellement, je tergiversais tellement, je voyais tellement pas le bout de ces conversations internes que j'avais avec moi-même et avec ma psy aussi. J'en voyais tellement pas le bout que je me suis dit « autant en parler, autant poser la question à quelqu'un qui a des enfants ». Et puis comme j'admire Ludivine pour son parcours, sa carrière incroyable, ça tombait sous le sens pour moi.
C'est un rôle modèle, quoi.
Voilà, je me suis dit, mais il y a bien, elle a tout réussi. Elle a une vie de famille et une carrière. Bah, elle va pouvoir me dire. Et je savais qu'elle allait me rassurer. J'ai pas posé la question à n'importe qui. J'ai posé la question à quelqu'un qui a 3 enfants. Donc je c'était un peu, je savais dans quel sens elle allait
c'était
me répondre.
Biaisé.
Et donc voilà, donc la petite fille que j'étais était très contente.
La petite princesse, tu veux dire, la petite fille qui a grandi comme, voilà. Comme une princesse.
En tout cas, c'est la petite fille que j'étais qui se voyait maman, était rassurée de voir que ce projet était encore possible.
Ah ouais, parce que tu l'as vraiment vu comme ça? Tu t'es vraiment dit, tiens, c'est intéressant parce que ça va venir...
Je sais pas si sur le moment j'ai pensé ça, mais... Souvent, je me demande, est-ce que j'ai fait les choses que la petite fille que j'étais, est-ce qu'elle en serait fière, quoi? Est-ce qu'elle serait d'accord? Tu te dis jamais ça, toi? Tu te dis pas...
Je pense plutôt à l'ado que j'étais.
Ah ouais?
Genre 12, 13, 14 ans, quoi, okay. Tu vois. Mais bon, parce que je suis un... Je crois qu'en tant que mec, on n'est pas élevé de la même façon, quoi, tu vois. C'est sûr que si t'as été élevé dans les poupées, les Barbie et tout, c'est très tôt, quoi. Je sais pas si t'as vu le film Barbie.
Oui.
L'intro est incroyable, toutes les gamines là. Bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ok, on n'a pas eu la même, quoi. Moi j'étais élevé dans les Goldorak, tu vois.
Ah, t'as pas eu de Barbie?
Non.
Pas eu de Ken non plus?
Non. Non, bien sûr que non. Moi je suis né en 77 et attends, moi j'étais musclore, moi, tu vois. Moi je suis Schwarzenegger et Stallone, moi, tu vois.
Mais ça me rassure que quand même il y a une jeune version de toi qui vient régulièrement te rendre visite pour te juger.
Bien sûr.
Et dire ah, tiens, t'as fait ça.
Ouais.
Ah. T'as fait ça? Ah, t'as fait ça?
C'est trop intéressant.
Je ne suis pas la seule, donc.
Non, bien sûr, c'est très intéressant. Bah, tu vois, j'ai un cadre de Riyad Satouf que j'avais interviewé et qui me disait que lui, tout son truc, c'est d'être... En fait, quand il a une envie de projet, il interroge son ado de 14 ans. Est-ce que ça te dirait de faire ça ou pas? Quand il a fait Les Beaux Gosses, tu vois, en tant que cinéaste, c'était un gros step pour lui parce que jusque-là, il avait fait que de la BD. Et il s'était dit, ok, est-ce qu'à 14 ans, t'aurais eu envie de devenir réalisateur ou pas? Ouais, ok, ouais. Bon bah let's go alors.
Mais c'est une super jauge, hein. J'adore Riyad Satouf.
Il est incroyable.
Il est daron?
Mais non, j'ai interviewé dans l'histoire de succès, donc je sais pas s'il est daron.
Ah, il va falloir lui poser la question.
Bah, pose la question. Je lui enverrai un message. je vous mettrai le lien d'ailleurs dans les notes de cet épisode si vous voulez écouter mon interview avec Riyad Satouf qui était génial. Enfin, j'ai trouvé génial.
Le gars est génial.
Le gars est incroyable. Donc en fait, déjà, t'as de la matière pour faire une interview cool, quoi.
Génial.
Forcément. Pour revenir à toi, donc merci Ludivine Sagnier. C'est quoi l'étape d'après alors? C'est que tu, une fois que t'as décidé, tu vas voir ton chéri et tu dis c'est bon, on est parti.
Ouais.
Vraiment?
Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça.
C'était une vraie discussion entre vous dans le couple? Parce que tu pouvais avoir, toi, des prises de tête de ton côté et que ce soit pas une discussion qui soit...
disons que moi, je pense que j'y pensais beaucoup plus que lui. Mmh. Donc moi, j'avais mes prises de tête perso. On en avait déjà parlé un peu, mais c'était pas, il y avait pas de, c'était pas un sujet brûlant. Et lui, bah, il avait le temps, hein, donc il a, voilà, lui, il n'était pas pressé. Donc oui. Tant que je venais pas avec le sujet, il allait pas forcément le mettre sur la table. Mais quand je suis revenue le voir pour lui dire, ok, je crois que c'est le bon moment, il a dit go.
Okay.
Ouais, on a le même âge et je dois avoir une certaine autorité naturelle. Qu'est-ce que tu veux?
C'est toi qui portes la culotte. Non, mais c'est vrai que c'est souvent les femmes qui sont moteurs dans les décisions et dans les envies d'enfants. Et d'ailleurs, parfois, ça m'interroge, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des darons qui viennent dans le podcast et qui finissent aussi par subir quelque part, ou alors qui suivent, tu vois, et qui ont pas vraiment signé, tu vois, juste ils ont mis un petit paraf en bas.
Ouais.
Et donc après, ils se retrouvent devant le raz-de-marée, ils font « Oh putain, c'est pas du tout ce que je voulais finalement. »
Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais ça non, le mien, ça va, il était chaud en fait.
Il était chaud.
Il était chaud et on a même remis ça 3 ans plus tard. Mmh. Donc,
comment s'est passée cette grossesse pour toi?
La première?
Ouais.
Écoute, plutôt très bien. J'ai adoré être enceinte. J'ai la chance d'avoir eu 2 grossesses... à la fois sans aucune complication médicale et très épanouie. Moi, j'ai adoré grossir, j'ai adoré être un peu l'objet à la fois de curiosité et de désir de tout et de tous.
Très bon pour
très
le
excitant.
Pour le côté comédienne, ça. Je voulais te poser justement la question de ton rapport au corps. Et en tant que danseuse professionnelle, comment t'as vécu, toi, cette grossesse qui, j'imagine, est un vrai défi aussi, un challenge pour le corps?
Alors, heureusement, j'étais plus en activité de danseuse quand je suis tombée enceinte. Mais bon, danseuse un jour, danseuse toujours. Donc, j'avais quand même hyper peur. Je pense que mon désir d'enfant, il était plus fort que mes réflexes de danseuse. Donc, à un moment donné, j'ai dû lâcher prise. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas souvent dans une vie qu'on porte un enfant. Allez. Et j'ai pris 20 kilos et c'était chambé. Et ça a été... tu sais que le fait que la peur du corps qui change, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai aussi un peu tardé, entre guillemets. En tout cas, j'ai mis du temps à me lancer dans la maternité. Parce que effectivement, ayant grandi face à un miroir, avec comme seul objectif d'être maigre, gracieuse, éthérée,
En tout cas, en tant que danseuse, j'imagine qu'il y a une forme de
il y a un
côté un peu ascète, quoi, tu vois.
Ouais, il y a
tout à fait.
Ouais, ouais. Et donc ça a été en fait avant de tomber enceinte, c'était vraiment un gros sujet. Et puis au moment de tomber enceinte, ça l'a plus été. Je suis très vite passée à autre chose, en fait. Je me suis dit, oh, tu sais quoi, je suis enceinte, je vais grossir. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas lutter contre la nature. Mmh. Et du coup, ça s'est très bien passé. Et après mon accouchement, j'ai reperdu mon poids et je suis redevenue mince. Et puis, j'ai retravaillé. Mmh. Et la deuxième fois aussi.
Mais je comprends que ce soit... Enfin... En fait, c'est pareil, je crois qu'on n'en parle pas assez, tu vois, du corps qui change et de quelques... Enfin, je te disais, avant qu'on enregistre, là, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était un trauma pour le corps des femmes. Mmh. Et bien sûr, on parle beaucoup du postpartum, etc., mais je ne sais pas si on parle à ce point-là de, tu vois, du corps qui... En fait, c'est chaud pour le corps des femmes.
Ouais, mais le corps est très résilient. Moi, ce que ça m'a appris, c'est à être humble par rapport au corps humain aussi, parce que... Passer de... Ouais, prendre 20 kilos, par exemple, quand on est vraiment toute fine.
Oui, t'es mince, pour les gens qui n'ont pas.
C'est vertigineux. Enfin, c'est-à-dire, les gens, ils te reconnaissent plus dans la rue. Mmh. Même moi, le matin, je me reconnaissais pas dans la glace. Et après, de voir le corps qui refond et qui redevient vraiment, mais comme avant, voire plus maigre. Moi, je suis plus maigre aujourd'hui que je l'étais avant d'avoir des enfants. C'est la preuve que le corps, il est ultra malléable, il est très résilient, que... si on le respecte et qu'on est quand même doux et douce avec soi-même, qu'on arrive à prendre le temps aussi, bah, il n'y a pas de raison qu'on ne reperde pas ses kilos. Mmh. Mais après, c'est normal qu'on ait peur, puisque la société tout entière nous dit qu'il faut être mince tout le temps et belle. Et imberbe. Bon, ça laisse des traces, forcément. Donc, bon. Mais j'ai très vite compris que j'allais pas pouvoir lutter contre ça, contre la nature, contre ce qui se passait. C'était beaucoup plus grand que mon désir d'être un corps parfait, entre guillemets.
C'est incroyable. En l'espace de, tu dis, dès que t'as su que t'étais enceinte, quoi, il y a un truc qui a switché en toi, quoi.
Ouais. Et je me suis prise en photo, je pense, toutes les semaines pendant mes grossesses. J'ai fait un petit journal, tu sais. Et après, je l'ai édité en petit livre. Donc, j'ai deux petits livres avec mes grossesses. Et je suis trop fière. Je suis trop fière de ce qu'il a fait mon corps. Je suis plus fière de ça, presque, que tout le travail que j'ai fait pendant 15 ans pour être danseuse professionnelle.
Ah ouais?
Ouais, parce que c'est un travail, porter un enfant et se laisser métamorphoser dans la joie et avec la douceur.
C'est incroyable, cette phrase.
Bah, ça, je trouve que c'est plus extraordinaire que de dompter son corps pour faire le grand écart ou je ne sais quoi, ou trois pirouettes. Franchement, c'est les plus beaux exploits que j'ai pu faire.
C'est incroyable, tu dis trois pirouettes comme si c'était vraiment un truc genre comme ça. Tu vois, alors que ça nécessite. Mais tu veux dire que t'étais vachement plus fière d'avoir lâché prise? Parce que t'as dit ça, en fait. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit lâcher prise. T'étais vachement plus fière d'avoir réussi à lâcher prise, finalement.
Ouais.
Ok. Ok, ok. Comment s'est passé l'accouchement, quand on parle de lâcher prise?
Alors, pour le coup, l'accouchement, au début, je voulais pas trop lâcher prise parce que je voulais un accouchement naturel, sans péridurale pour mon fils, parce que, en tant que danseuse, je voulais souffrir au maximum et me challenger. Je voulais absolument vivre l'accouchement la plus naturelle possible pour presque sportivement, quoi, tu vois, dans ce truc d'athlète. Et au bout de 17 heures de contraction et qu'on t'annonce que tu es ouverte à 4 cm, là tu dis bon, bah je vais lâcher, en fait. Là, je vais lâcher. Et donc, j'ai accepté une péridurale.
T'avais bien taffé, ceci dit, tu vois, 17 heures.
Ouais, mais
c'était
dur. Mais pour rien. C'est-à-dire que quand t'es ouverte à 4, vraiment, tu te dis, OK, je vais pas pouvoir refaire 17 heures. Donc, j'ai accepté la péridurale. Là, j'ai lâché. Et je me suis endormie, je me suis réveillée, j'ai accouché.
Ah ouais?
Ouais, ouais. C'est-à-dire que.
C'est-à-dire que vraiment, quand t'as lâché, ton corps, il a dit, c'est bon, on peut y aller.
Ah oui, j'ai fait une sieste. Donc la péridurale arrive, je fais une sieste, je me réveille, je suis à 9, c'est parti, clac, et le bébé sort. Bon, j'ai poussé sans rien sentir parce que j'avais une péridurale, mais vraiment, il est arrivé littéralement après que j'ai dormi. Comme quoi, tu vois, le lâcher prise, ça marche bien avec moi.
17 heures, quasiment rien, incroyable.
Ouais.
Ok, bah dis donc.
Voilà. Mais c'était un très bel accouchement malgré tout, et j'ai bien fait de faire la péridurale. Je bénis la personne qui a inventé cette substance.
Oui.
Et cette technique.
La drogue.
Voilà, la drogue.
La drogue gratuite.
Remboursée par la sécu.
Remboursée par la sécu.
Non, non, c'était super. C'était super, et on était très émus. Enfin, bon, voilà. En accouchement, quoi.
Waouh!
Je vais dire une banalité. Mais non. C'est un peu une banalité de dire que c'était le plus beau jour de ma vie, que. Qu'on a pleuré, qu'on était.
Bah, comment se passe la rencontre avec ton fils?
C'est
une banalité, ok, en fait, mais il y a plein de gens qui.
C'est marrant parce que personne m'a jamais posé la question.
Bah oui, je sais, c'est pour ça que je la pose. C'est comme une rencontre, tu rencontres.
Bah, je le rencontre mon fils tous les jours. J'ai l'impression que je découvre mon fils tous les jours, tu sais, depuis qu'il est né. Donc, la rencontre de l'enfant qui sort de mon ventre, oui, c'est très émouvant parce que il sort, on coupe le cordon, on me le met sur moi, et oui, je le regarde et je me dis, waouh. Ça y est, quoi, c'est toi et moi pour la vie. Donc, c'est une belle rencontre. Et je sais pas trop quoi te dire parce que après a commencé une longue période difficile. Donc c'était une belle rencontre mais qui a amorcé une grande traversée de désert quand même.
À quel niveau?
Au niveau de toute la période postpartum a été un peu compliquée. La mise en place de l'allaitement, c'était difficile. J'ai rencontré quelques difficultés. Alors, j'ai pas eu de problème à créer le lien avec mon bébé, par exemple, et j'ai pas fait de dépression, mais c'était dur. Le manque de sommeil, l'allaitement douloureux, le sentiment de solitude, l'isolement pendant le congé, quand mon conjoint a repris son travail. C'était vraiment pas facile et j'ai un peu déchanté. Mmh. Et c'est comme ça qu'est né mon désir de militer. Mmh. C'est qu'il est né, mon désir de militer, il est né de la colère face à l'isolement que je vivais en postpartum, clairement. Donc, ouais, accouchement merveilleux. Et puis après, je me suis sentie un peu abandonnée.
Mmh. T'as la sensation que si on t'avait prévenu, ou si on t'avait donné plus d'infos, ou si on t'avait... Bon, c'est marrant parce qu'on s'est connu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu Parents et Féministes par le congé paternité, par le petit buzz qu'on avait fait avec d'autres darons. Qu'est-ce que sociétalement on aurait pu faire, tu crois, pour faire en sorte de t'éviter de vivre ça? Parce que j'ai presque l'impression quand t'en parles que c'est ce que t'as vécu un super moment de rencontre avec ton fils et que tout de suite tu dis bah en fait ça a été gâché parce que c'était chaud, c'était en fait le commencement d'une traversée du désert qui a été dure pour toi émotionnellement.
Ouais, bah tu quittes la maternité et tout d'un coup t'es quasiment seul chez toi. Ouais. Je me rappelle j'ai beaucoup pleuré en arrivant chez moi. Bon, t'as la chute d'hormones, oui. Tu sais, AG+3, ou tu sais plus trop comment tu t'appelles. Et je me rappelle, je pleurais. Même à la caisse de la maternité, ce moment, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais pour payer à la caisse de la maternité. Donc, je donne ma carte vitale, en gros, vraiment. En gros, oui. j'ai payé 140 euros. Je suis allée pour payer, je pleurais devant la dame. Et je pense qu'elle voit ça tous les jours. Des femmes qui sortent avec leur bébé dans le cosy de la voiture. En pleurant, j'avais envie qu'elle me retienne, qu'elle me dise « Mais non, mais reste encore une nuit, madame. » Et je suis arrivée chez moi et j'avais peur. J'avais peur parce que je savais que je ne savais rien faire. Personne ne m'avait appris à être mère. Alors, mon conjoint est resté quand même un bon 3 semaines peut-être à la maison. Il a réussi à prendre pas mal de jours et puis après, il a un peu fait des matinées, des demi-journées, il a aménagé son travail, mais c'était quand même très rapidement, je me suis sentie seule. Qu'est-ce que la société peut faire pour éviter ce genre de situation? C'est allonger le congé paternité, plus que 28 jours, s'il vous plaît. Et moi, j'adorerais qu'il y ait plus de place pour une relation avec des sages-femmes ou avec un personnel qui sache prendre soin des femmes. Tu sais, c'est comme aux Pays-Bas, là, les Kramzorg. Et ces femmes, ces bonnes fées qui viennent s'occuper de toi et ton bébé pendant plusieurs semaines après ton accouchement. Mais littéralement, elles te font le ménage, elles prennent le bébé, mais elles prennent soin de toi, elles te font un repas. Et ça, c'est l'État hollandais qui le prend en charge. Bah, voilà. Si on avait ça, par exemple, je pense que ça éviterait bien des souffrances chez les mères.
Et c'était une discussion que vous aviez avec ton mari? Ou c'était... Juste, t'étais dans ton coin, toute seule, et juste t'avais ton seum, et c'est... Non,
mais... Ouais, c'est ça.
Et tu lui en parlais pas?
Bah non, je pleurais toute seule. Ah non, mais c'était affreux, enfin... Comme c'était nouveau, moi je pensais pas que c'était normal.
Oui, bien sûr.
Moi je pensais que j'avais un problème.
Oui.
J'avais l'impression...
C'était une mauvaise mère.
Ouais, j'avais l'impression d'être en échec. Et donc, je pleurais dans mon coin, je serrais les dents, l'allaitement, ça se passait pas bien. Donc, enfin, je fais venir une consultante en lactation qui m'aide. Et puis, mon conjoint, il est un peu en PLS parce qu'il me regarde, il comprend pas du tout ce qui est en train de m'arriver. Donc, il fait ce qu'il peut, il me dit qu'il m'aime, et puis il berce le bébé. Et puis, moi, je l'allaitais, donc la nuit, c'est moi qui me réveillais. Et la journée, bah voilà... Il faisait ce qu'il pouvait, mais moi, je sentais que c'était pas assez, mais je pouvais pas mettre de mots dessus à l'époque parce que j'avais pas idée qu'il pouvait faire autant que moi.
Parce que c'était ta mission céleste, rappelons-le, en tant que, voilà. Que petite fille.
Exactement.
C'est ta mission qui t'est venue directement de Dieu, quoi.
C'est ça.
En tant que femme.
Du dieu des Barbies. Et il y a des Barbies enceintes? Il y a Barbie enceinte ou pas?
Je crois même...
Mais elle n'a pas été annulée? Il y avait pas cette histoire de... Il y a eu une Barbie enceinte et elle a été annulée par la boîte?
Par
Mattel?
Je vais pas dire de conneries, mais je me souviens très bien qu'il y avait une Barbie enceinte et qu'en fait, tu pouvais lui ouvrir le ventre et qu'il y avait un bébé
mais
dedans,
non?
Je crois, hein?
Mais non, mais l'ouvrir comment le ventre? Comme, bah, comme un petit placard?
Oui, comme un petit coffre. Je crois. Hein.
C'est énorme.
Je vous mettrai une petite note dans le montage, je vais aller revérifier ça, mais
oh
je crois.
Là
hein.
là.
Je crois qu'on la voit d'ailleurs dans le... Tu sais, à la fin du film, il y a un générique avec tous les Barbies qui ont été annulés, etc., etc.
Ah ouais?
Ouais, il y a un long générique qui est trop, trop bien d'ailleurs.
J'ai peut-être quitté la salle.
C'est parti.
Trop tôt.
Alors que c'est vraiment le meilleur moment, parce que pour moi, j'ai retrouvé plein de Barbies que mes copines avaient, que ma petite sœur avait, etc., etc. Je me disais, putain, je me souviens de cette Barbie-là.
Barbie enceinte.
Je crois. Hein.
Dont le ventre s'ouvre comme un placard.
Je crois. Hein.
Je t'en supplie.
Attends, je vais... Bon, allez, c'est parti, je vais chercher dans Google.
Ah là là. Dans un moteur de recherche dont on taira le nom.
Bon... Pff. Ah ouais, toi t'es...
Moi je suis sur Ecosia.
Ah oui, bah...
Je plante des arbres moi, à chaque recherche.
Pardon. Non mais tu vois, il me reste encore du travail à faire pour devenir un bon citoyen du monde. La Barbie enceinte de Mattel crée l'indignation chez les parents en 2018.
Ah, l'année de naissance de mon fils.
Le ventre amovible de la Barbie contient un bébé. Donc la célèbre Barbie est vendue avec toute sa famille, son partenaire Ken, deux enfants, le nouveau-né et une poussette. La marque Mattel a équipé sa Barbie enceinte d'un ventre amovible d'où peut sortir un bébé en plastique. Toutefois, l'accessoire pose problème. Après la célèbre question que se posent souvent les enfants, comment on fait les bébés, les parents devront se creuser la tête pour répondre à une autre question sensible. Comment le bébé sort du ventre de maman s'ils prennent modèle sur la poupée en plastique? Le jouet déplaît à certains parents. Le journal en ligne de Mirror a renvoyé vers un forum Latest Deal, où les parents commentent le produit vendu en ligne sur Amazon et eBay. Les commentaires, tantôt indignés, tantôt amusés, fusent sur cet espace. Pour certains parents, le jouet est horrible, ne doit pas être mis entre les mains de petits-enfants. Les parents auraient-ils du mal à répondre aux questions, somme toute normales, de leurs enfants? Et vous, qu'en pensez-vous? Desseriez-vous? Oh là là, quelle purge, vraiment. Mais donc, oui, regarde.
Il y a une photo?
Oui, je vous mettrai une photo, effectivement.
Oh, c'est cringe!
Donc voilà, on lui enlève le ventre et il y a un bébé dedans, tout simplement.
Là.
Allez, bonne journée. Je sais pas si elle est annulée en revanche, tu vois, je sais pas.
C'est terrible. J'aurais voulu ne jamais voir cette image. Je voudrais te dévoir.
Tu sais, c'est vraiment bloop et puis tu vois, il y a le bébé qui sort. C'est la Barbie césarienne en fait, tout simplement.
Oh là là. Merveille.
Merci Mattel.
Merci, ouais. Pourquoi on est arrivé là?
Parce que je te disais que c'était un peu ta mission céleste,
ouais, voilà,
de maman, de t'occuper de ton enfant. Et pour moi aussi, c'est un truc qu'il faut réussir à faire prendre conscience aussi aux femmes et aux mecs, c'est que, bah oui, c'est pas parce que la société t'a dit toute ta vie que t'allais devenir maman que t'es obligée de tout faire toute seule et de tout prendre sur tes épaules, quoi.
J'ai rêvé que tu me disais ça un jour.
Moi?
Oui.
Comment ça?
Là, j'ai un flash. J'ai rêvé de cette situation. J'ai rêvé
que, moi,
que tu me disais exactement ça.
T'as un déjà vu, là?
Ouais.
Oh, wow.
Je te jure. Je te jure. Là, juste cette phrase-là. Et on se connaît pas, hein.
Non,
on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc, tu étais... J'ai déjà vu ça. Tu sais, c'est un truc de l'esprit, là.
Oui, ça m'arrive
fou.
Parfois.
C'est fou.
T'es un peu médium?
Non, pas du tout. Je crois pas. Mais ça m'arrive d'avoir des déjà
vus.
Ça m'arrive régulièrement, pas toi?
Si.
Bon.
Mais jamais dans une interview.
Ah ouais? Une première fois à tout.
Donc déjà vu, effectivement. Donc oui, c'était pas ta...
Ouais.
C'était compliqué pour toi de partager aussi avec ton...
Oui, du coup, on n'en parlait pas.
Ton compagnon.
Je souffrais un peu en silence et on se disputait.
Ouais.
Parce que quand même, j'étais un peu vénère de devoir faire la plus grande part des tâches ménagères, par exemple, alors que je ne dormais pas la nuit, que j'avais un bébé le jour. Et puis, en fait, c'est en parlant avec d'autres mamans et en créant l'association, en 2019, donc, que j'ai mis des mots sur ce que je ressentais. Et à travers la création de l'asso, mon mec a un peu découvert mes souffrances et mes doléances. Et j'ai réussi à lui expliquer aussi.
C'est fou, c'est-à-dire que t'as été, entre guillemets, obligé de créer une asso pour pouvoir dire à ton gars ce qui était compliqué pour toi.
C'est un peu ça, ouais.
Ouais. Parce que ça. Pour toi, c'était dur pour toi de le faire avant ou parce que tu t'en rendais pas compte? Ou il y avait aussi une forme de... Comme tu disais tout à l'heure, tu te sentais en échec, donc c'était dur de lui partager que tu te sentais en échec, c'est ça, à ce moment-là?
Ouais, je pense qu'il y avait à la fois la difficulté de lui en parler. de le confronter sur des choses qui pouvaient poser problème dans la maison, dans son comportement, ou dans... Pas forcément dans son comportement d'ailleurs, mais juste dans le fait qu'il n'était pas toujours présent, ou que même d'autres ne n'étaient pas présents dans notre entourage, nos familles, nos amis.
Rappelons qu'en tant qu'homme, sa mission céleste à lui, c'est d'aller chasser le mammouth, n'oublions pas.
Voilà.
Et de ramener la viande à la maison.
Donc il y a à la fois peur de confronter, dur de trouver les mots, et puis juste la fatigue aussi en fait. J'étais fatiguée. Alors qu'avec avec les membres de l'asso, enfin les cofondatrices qu'on était, j'avais plus de force. Et puis ça m'a fait du bien d'entendre les histoires des autres. C'est en écoutant les autres que j'ai réussi à m'exprimer. Quand t'es seule chez toi avec ton bébé et que ton mec rend du taf, t'as pas idée de lui dire tout ce que tu penses. Juste, tu lui tends l'enfant et tu vas prendre une douche. Donc, j'étais dans la survie et grâce à l'asso, j'ai réussi à revivre un peu, à retrouver de l'espoir, à trouver du sens et à lui dire les choses de manière assez indirecte parfois. Et depuis, on en a beaucoup parlé, évidemment.
J'imagine que ça a ouvert des portes à des conversations. Ok. Et donc, tout ça est passé par l'asso, finalement. Ok.
Ouais.
C'est trop intéressant. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que, si j'ai bien compris, votre asso s'est créé autour d'un café.
Ouais.
C'est ça?
Ouais.
Avec d'autres femmes.
Ouais. En fait, à la base, j'ai rencontré Amandine Antsevitch, que j'ai entendue dans un podcast de Charlotte Bien-Aimée, qui est une podcasteuse extraordinaire, qui a un podcast sur Arte Radio. Je fais de la pub pour la concurrence, désolé.
Bah vas-y.
qui s'appelle Un podcast à soi, et qui est un podcast féministe, c'est du documentaire. Et dans l'épisode numéro 4, qui s'appelle Papa au thé, on entend des femmes, un collectif de mères, se plaindre de l'absence de congé paternité en France. Et en écoutant ça, j'ai eu un flash, et j'ai écrit à Charlotte Bien-Aimée sur Facebook pour lui dire tout le bien que je pensais de son podcast, et lui dire, mais moi aussi je veux militer, moi aussi je veux faire changer les choses. J'en peux plus en fait, je ne comprends pas pourquoi on est si nombreuses à souffrir seules avec nos nourrissons chez nous et personne n'en parle. Et elle m'a mise en contact avec Amandine et on a décidé de monter par un féministe avec d'autres. Mais c'est grâce à Amandine un peu que j'ai eu la force et l'idée aussi de créer un truc.
Trop bien.
Et donc vive les podcasts quand même.
Bah oui, ça, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Hein.
Ça donne des idées.
Mais donc, ça s'est tellement bien passé que vous avez décidé d'en faire un deuxième.
Ouais. Alors, j'ai toujours voulu avoir deux enfants. C'était un peu le... Ça allait avec le...
Mais ça aurait pu, tu vois, cette difficulté du postpartum, etc., aurait pu te faire dire est-ce qu'on y retourne ou pas.
Mais entre-temps, j'ai créé une asso. Et donc, j'ai pris mon destin en main et j'ai pris les choses en main et j'ai transformé ma colère en action. Et j'ai trouvé du réconfort et des solutions. Et c'est grâce aussi à l'asso que vraiment j'ai réussi à remettre le couvert. Et après, je suis quelqu'un de déterminé. Hein. Donc, si à 8 ans, j'avais l'idée d'avoir deux enfants, t'es à peu près sûr que plus tard, ça allait être un peu ça, quoi. La mission céleste, n'oublie pas. La mission céleste.
La mission céleste.
Voilà. Donc, et ma fille est arrivée en 2020.
Plein Covid, alors ?
Ouais, plein Covid.
Comment s'est passée cette deuxième grossesse pour toi ?
Eh ben, en confinement, donc. Ouais. Mais ce qui était pas mal, parce que, et je pense que t'as pas mal de darons qui ont dû t'en parler de ça, comme il n'y avait rien d'autre à faire qu'à laisser faire, et qu'à manger chez soi.
En tout cas, pour toi, en tant que comédienne.
Ouais.
J'imagine
oui,
que
mais
c'était...
moi, j'avais un travail non essentiel.
Oui, hein, c'est donc, ça. T'avais un travail où tu pouvais rester à la maison tranquille.
Voilà. Moi, j'étais obligée de rester chez moi sans travailler. Donc j'ai couvé, quoi. Vraiment, j'avais mon petit, j'avais Isidore. Et puis, du coup, c'est une grossesse merveilleuse parce que mon mec était à la maison tout le temps. Lui, il télétravaillait, mais il était avec moi. Et il s'occupait merveilleusement bien de moi. Et j'avais pas l'impression de rater des opportunités professionnelles puisque personne ne travaillait et pas de tournage.
Pas.
Les théâtres étaient fermés. Donc, j'avais pas de FOMO. Et alors, j'avais peur pour notre vie quand même parce qu'il y avait le Covid et que j'avais pas le droit d'aller au supermarché. Mais à part ce détail d'avoir peur quand même de tomber malade, j'étais hyper sereine parce que j'avais l'impression que c'était le bon moment pour avoir un enfant.
C'est vrai ?
Ouais, bah oui, parce que autour de nous, on parlait de mort et moi, je donnais la vie. Mmh. Donc, j'avais l'impression de résister rien qu'en faisant ça, finalement.
De résister. C'est trop bien. Maman fait de la résistance.
Voilà, c'est ça.
T'as l'impression d'avoir nidifié, c'est ça?
Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais.
Ouais. Ok. Comment c'est pas... L'accouchement s'est passé, c'était quand? Est-ce que c'était en plein dans le confinement ou...
C'était entre deux confinements. Okay. Vraiment, j'ai eu une petite fenêtre.
Ouais, entre mai et octobre, alors, c'est
voilà,
ça?
Voilà, j'ai accouché en août, sans masque en plus. J'ai eu de la chance parce que là où j'ai accouché, elles ont été merveilleuses. Elles m'ont laissé accoucher sans masque, avec mon conjoint dans la pièce, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de femmes.
Ouais.
Ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, mon asso a pas mal milité pendant le confinement pour empêcher ces violences obstétricales. Parce que accoucher avec un masque seul, c'est une violence.
C'est horrible.
Ah non, mais les histoires qui nous parvenaient, tu peux pas savoir.
Non, bah...
C'est une aberration. Et les sages-femmes qui à la fois voulaient se protéger, et donc c'était difficile de les incriminer.
Bien sûr.
Et en même temps, elles voyaient bien que c'est impossible de respirer avec un masque. Donc bon... J'ai eu beaucoup de chance, j'ai accouché dans de très bonnes conditions et sans péridurale cette fois. Je suis allée jusqu'au bout de ma mission, Céleste. Et j'ai accouché d'une petite fille merveilleuse. Vraiment, j'ai suivi mon projet de naissance à la lettre. C'était génial.
Et c'était quoi ton projet de naissance?
Sans péridurale, seule, quasiment seule avec mon mec dans une pièce, avec de la lumière tamisée et où les gens frappent à la porte avant d'entrer et me demandent mon consentement pour me mettre un doigt dans le vagin. Enfin, vraiment juste genre le truc parfait où je suis respectée du A à Z et
qui quand même pas
on me
non
laisse
plus
tranquille.
Incroyable quoi, tu vois. T'es pas dit je voudrais accoucher dans un arbre, tu vois, c'est un truc complètement fou.
Non,
quoi.
Mais ça paraît incroyable quand on entend les histoires de comment les femmes accouchent aujourd'hui en France. Dans la plupart des maternités. Ouais, ça me semblait presque un peu du luxe. De ne pas être violentée en accouchant aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même genre... Waouh, t'es passé entre les gouttes un peu. Enfin, peut-être que je suis, de par mon militantisme, beaucoup plus exposée aux histoires difficiles.
Ouais, je crois qu'il y a aussi peut-être... faut faire attention, tu vois, aux bulles filtrantes finalement qui peut-être finissent où forcément les gens pour qui ça s'est mal passé vous écrivent et c'est normal parce qu'en fait quand t'as subi une violence t'as envie de le raconter bien sûr que tu vois dans mon podcast par exemple où je crois que c'est plus ouvert bien sûr qu'il y a aussi des violences qui sont racontées et qui sont venues qui sont partagées ici mais il y a aussi plein de darons et de daronnes qui racontent à quel point le personnel soignant était incroyable.
Bah oui, et j'en suis la preuve mais quand même En parlant d'accouchement avec mes amis ES, y a quand même une grande proportion d'histoires difficiles. Et je me dis, si sur 10 femmes autour de moi, il y en a, je sais pas, 5 qui me racontent des horreurs, c'est que, bon, dans la société, c'est pas. À l'échelle de la France, ça va pas être génial. Mais.
Je crois que c'est trop cool qu'en tant que femme, que patient d'une manière générale, en fait, c'est trop bien de savoir aussi que tu peux dire non. Et qu'on t'apprenne à dire non en fait, c'est pas parce que la personne en face de toi elle a une blouse ou qu'elle est censée être experte qu'elle est obligée de faire n'importe quoi avec toi, que si tu sens qu'il y a un truc qui va pas faut le dire quoi.
Ouais, mais c'est hyper dur.
Bah oui, c'est l'uniforme hein, ça.
Ouais, et puis c'est ouais, dès qu'on met un pied à l'hôpital de toute façon il y a un rapport de force qui se crée où t'es quand même infantilisé quoi. Et quand t'es enceinte t'es en plus très vulnérable donc c'est difficile mais ouais, donc j'estime que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'accouchement était un rêve et je suis très reconnaissante aux sages-femmes qui m'ont accompagnée parce que c'est des nanas qui font un boulot incroyable. Et quand on me demande qu'est-ce que t'aurais fait dans la vie si t'étais pas comédienne, eh ben j'aurais bien aimé être sage-femme, je crois, dans une autre vie.
Ok.
Et toi, par exemple, qu'est-ce que t'aurais fait dans une autre vie?
Incroyable.
Vraiment, tu resets. Tu n'es plus la personne que tu es aujourd'hui. Enfin, tu es toi, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ferais quoi?
On m'a jamais posé cette question. Je me la suis jamais posée, donc.
Eh ben, je te la pose.
Je crois que j'aurais été artiste.
Artiste quoi?
Mais je sais pas. Et c'est ça la vraie question. C'est que... T'as déjà entendu parler de ce livre qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron?
Non.
Qui est le pire titre en VF, qui est vachement mieux en VO. Je sais plus, j'ai plus le titre exact en
comme
VO.
Comme souvent.
Et qui raconte qu'en fait, dans chacun de nous, il y a un artiste. On est en tant qu'artiste, vraiment en tant qu'enfant, on est des artistes. Et qu'en gros, très souvent, c'est les adultes qui tuent notre artiste intérieur. Mmh. Et qu'on a plein, on a tous des petits artistes fantômes. Sauf les artistes qui sont devenus artistes comme toi, tu vois, par exemple, qui ont réussi à s'épanouir en tant qu'adultes. Mais qu'on a tous des artistes fantômes. Et donc son bouquin, ce qui est une sorte de, on va dire, de stage en 12 semaines, incite à réveiller l'artiste fantôme. En soi.
Et tu l'as fait ?
Écoute, non, j'ai jamais pris le temps. J'ai fait 3 semaines, parce qu'en gros, c'est en 12 semaines. J'ai fait 3 semaines et après, j'avais trop de trucs à faire. Je suis pas allé jusqu'au bout. Mais comme quoi, tu vois, mon artiste fantôme, il est là, frérot, calme-toi bien. Merci pour cette question. Mais je sais pas, de ce fait, tu vois, ce que ça m'aime, là où j'irai.
T'as pas des inclinaisons comme ça, genre...
Non.
Non ?
Là, je suis dans... Là, c'est dans ce que je suis en train de faire, là, je suis dans... Dans mon flow, quoi, tu vois.
D'accord.
Je suis dans ma zone.
Ok.
Donc, c'est, tu vois, c'est pas comme si j'étais pas...
Oui, non, mais t'es pas un artiste frustré.
Ah non.
Non. Mais si je te demande ce que tu ferais dans une autre vie, tu m'as dit artiste, c'est intéressant.
Mais c'est pas... En fait, c'est... Je crois que je pourrais être frustré si j'étais... Si je faisais un métier qui me plaisait pas du tout. Là où j'ai trouvé un truc qui me convient très bien.
Oui, oui. Mais non, mais c'était vraiment par simple curiosité.
Incroyable.
C'est comme... En vrai, je veux pas être sage-femme. Et je pense que je le serai jamais. Mais, tu vois, si on se réinventait totalement, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, ouais, le plus beau métier du monde, après celui d'être interprète, pour moi, c'est ça.
Ok.
Voilà.
Et, mais tu le dis aujourd'hui ?
Oui, je le dis c'est-à-dire parce que j'ai accouché.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que si tu remettais tout à zéro quand t'étais petite, est-ce que c'est ça que tu rêvais de faire ?
Bah non, je savais même pas que ça existait comme métier. Mmh. J'ai appris... que ça existait sage-femme en rencontrant des sages-femmes pour mon accouchement, pour préparer mon accouchement. Donc oui, c'est la femme d'aujourd'hui qui le dit. Ah, mais si je voyageais dans le temps et que je demandais à la petite fille
c'est parce
que j'étais... Ça,
moi, quand tu me poses cette question, moi, je repense tout de suite au petit Fab de 6 ans, quoi.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, non, mais à l'époque, la petite fille que j'étais voulait que je devienne danseuse d'étoiles, donc c'était ça. Oui, mais
pas
sauf
mal.
Que... ça y est, ce désir est passé.
Comme tu l'as fait, c'est incroyable.
Bah, je suis pas devenue dans ces étoiles, non, Dieu mais, merci. Mais comme on dit en anglais, that ship has sailed.
Oui.
Ce bateau a navigué.
Ce bateau a levé l'ancre.
Voilà, c'est plus... ça. Et moi, je suis allée. J'ai mis les pieds sur terre, là. C'est fini.
Je serai dessinateur. Voilà.
Ah.
Je
l'ai. Génial. Il me dit ça, là, vous le voyez pas, mais il est assis sous un dessin de Riyad Satouf.
Non, mais je serai dessinateur. Okay. Tu sais que je dessinais de ouf et j'ai rencontré un copain à 15 ans, en seconde. Qui dessinait 1000 fois mieux que moi. Et à l'époque, je me suis dit, ok, tu dessines vraiment comme une merde. J'ai arrêté.
Mais non.
Quasiment du jour au lendemain.
Ça t'a dégoûté de voir.
Il était
quel
trop
point...
fort. Et je me suis dit, ok, jamais j'arriverai. Mais tu vois, il était hyper technique en plus. Donc il était vraiment très, très fort. Là où moi, j'avais aucune technique.
Mais t'avais quel âge ?
Bah, 15 ans. Et tu sais, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les blogs BD à l'époque. Et en fait, il n'y avait pas cette possibilité de voir qu'il y avait autant de styles possibles. J'ai arrêté du jour au lendemain.
Mais c'est horrible, tu t'es comparé.
Ouais.
Bah
oui,
tu sais,
mais il
n'y
avait
pas
de podcast.
Tu sais ce qu'il est devenu, ce jeune homme ?
Ouais.
Est-ce qu'il est devenu...
Pas du tout dessinateur.
C'est ça qui est ouf.
En revanche, il est toujours hyper doué pour dessiner.
Et est-ce que lui, il est frustré de ne pas être devenu dessinateur ?
On n'en a jamais parlé, lui et moi, parce que je crois que c'est dur comme discussion.
D'accord. Mais t'es encore en lien avec lui ?
Oui.
Ok. Bon.
Il y a parfois des discussions qu'il vaut mieux pas avoir avec les gens, tu sais. Où tu sens que tu vas ouvrir une boîte qu'il vaut mieux pas ouvrir.
Même dans le cadre d'un podcast, si tu l'invitais à parler au micro ? Parce que ça met un cadre différent.
Ouais.
Bon, je pose ça là.
Comment t'as retourné l'interview en 2 secondes ? Mais bravo,
et
t'es
ouais.
Très forte.
Ouais. Bah, je suis femme.
Tu es femme.
Je suis femme, je suis fille de journaliste.
Ah oui !
Ouais.
On est sur de la curiosité.
Donc
alors.
C'est de la déformation filiale. Voilà.
Attends, on parlait de toi, on parlait de ta fille, on parlait de...
On a fait les deux accouchements.
De ton projet, c'était super et tout.
Ouais.
Comment ça s'est passé pour toi de mettre au monde une fille ?
Eh bien, c'était quelque chose, hein, parce que... J'étais hyper contente d'avoir un garçon la première fois. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, il va pas galérer dans la vie. Il va... Ça va être un homme, quoi. Il va être libre, il va faire ce qu'il veut dans la vie. Et quand j'ai su que c'était un garçon avant d'accoucher, Par contre, pour ma fille, on a décidé de pas savoir parce que je voulais la surprise et puis je voulais pas. C'était un peu une démarche militante de lui foutre la paix pendant la grossesse, parce que quand tu dis le sexe de ton enfant in utero, les gens viennent plaquer des idées, des préconçus, des désirs, etc.
Arrêtez de faire ça.
Ouais, arrêtez de faire
c'est
ça.
Trop chiant.
Et nous-mêmes, on l'aurait fait.
Ouais.
Tout d'un coup, tu vois des choses. Et
très d'accord.
Ne serait-ce que deux garçons ou un garçon et une fille ou je sais pas quoi, le rapport à au frère et à la sœur. Donc, elle est sortie de mon ventre et on m'a annoncé que c'était une fille. Et j'étais très fière. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose quand même de. J'ai pensé un peu à ma mère et à ma grand-mère. Je me suis dit quand même il y a une lignée de femmes là qui se fait. Ça c'était assez beau. Et j'ai vu mon conjoint éclater en sanglots de bonheur parce que lui il y a que des garçons dans sa famille. Il n'a que des frères. Et je crois que ça l'a soulagé de voir une petite fille arriver dans sa vie. Donc c'était un bonheur incroyable.
Incroyable. Mmh. T'as le droit de ressentir l'émotion, tu sais, ici on fait ça, c'est pas un problème.
Ah non, mais le silence est toujours, c'est toujours le bienvenu.
Tu viens de frotter ton ventre. C'est trop mignon. Ok. Donc ta fille qui a aujourd'hui 4 ans.
Elle a 3 ans et demi.
Bientôt.
Mm-hmm.
Pardon, c'est très important.
Ah, les demi, tu sais, à cet âge-là, ça compte. Hein. Ah ben, elle aura 4 ans en août, donc ouais, on est vraiment à 3 ans et demi. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ma fille?
Non, mais je me demandais un petit peu pourquoi t'étais émue comme ça.
Je parle pas souvent de mes enfants des inconnus, donc c'est quand même toujours un peu étrange et...
Tu savais pas que tu venais parler dans l'histoire des arts. Tu t'étais pas préparée.
Non, mais je pensais, je pensais qu'on parlerait beaucoup de mon asso, et du militantisme et de ça, et de ce que c'est d'être parent. Mais parler de ses enfants, c'est pas un truc que je fais souvent.
Ok. T'es à l'aise avec ou...
Ouais, ça va, je suis très contente. Je les adore, ils sont super. Hein,
je veux dire, est-ce que t'es à l'aise avec le fait d'en parler?
La fille.
Incroyable. C'est trop génial. Je suis en train de te parler de toi et de est-ce que t'es à l'aise ou pas d'en parler? Et tu me dis, oh, je suis à l'aise avec mes enfants. Non, je te parlais de toi. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de m'en
partager? Je suis très à l'aise de parler de mes enfants.
Okay.
Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est marrant de revisiter, par exemple, de revoir des images de la première fois que tu rencontres, tu vois ton enfant, ton visage. Ça n'arrive pas toujours, tous les jours.
C'est incroyable.
Un peu d'émotion quand même. Naissance d'un enfant.
Mes filles, tu vois, ma fille est née à bientôt 18 ans. Et je l'ai toujours, et je crois qu'en fait ça ne partira jamais. Ça ne partira plus jamais. C'est un truc qui te marque au fer à vie.
Ouais. C'est dommage qu'on se souvienne pas de notre propre venue au monde. Ouais.
Je crois que peut-être tu peux prendre des drogues pour t'en souvenir, je ne sais pas. Jamais testé.
Peut-être sous hypnose.
Ouais.
Non, je crois que le cerveau n'est pas capable de remonter si loin, si j'ai bien compris.
Ah ouais? Non, mais si c'est ancré dans nos cellules de ouf. Hein.
Tu crois?
Ouais, c'est...
Par contre, il y a un truc que j'ai fait, moi, pour mes deux enfants, j'ai fait de l'aptonomie. Avec la papesse de l'aptonomie, qui s'appelle Catherine Dolto. Et c'est elle qui dirige l'école d'aptonomie en France et qui a importé cette technique. Et ce qu'on fait avec Catherine et ce que font les aptonomistes, c'est l'arriversaire des enfants. Ouais, l'arriversaire, c'est-à-dire que... déjà, t'as l'arriversaire, tu le fais aux 9 mois de l'enfant. Donc, quand ton enfant a 9 mois, on fait un petit rendez-vous. 9 mois dedans, 9 mois dehors. C'est ton arriversaire. Et ce qu'on fait aussi, le premier rendez-vous post, parce que l'aptonomie, tu le commences au début de la grossesse, et c'est tout ce travail de communiquer avec ton bébé in utero, et c'est le père notamment, ou le second parent, qui peut rentrer en contact avec le bébé à travers le toucher, le parler dans le ventre, il y a plein d'exercices qu'on fait. Donc ça a été très bénéfique pour impliquer le papa.
Oui.
et puis juste d'avoir des moments quand même un peu d'interaction avec un bébé in utero. Et ensuite, une fois que ton bébé est né, tu peux faire encore quelques rendez-vous. Et le premier rendez-vous post-accouchement, tu refais l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, mais vraiment, c'était bouleversant. L'autonomiste met ton bébé sur toi. En fait, elle le met surtout limite entre tes jambes. Et en fait, ton bébé se met à bouger. Et en fait, Catherine te fait parler ton accouchement. Alors, comment c'était, etc. Et là, il s'est passé quoi? Et en fait, le bébé est sur toi, en train de vivre sa vie, mais écoute tout ce qu'on dit. Et en fait, tu revis ton accouchement avec ton bébé en dehors de toi. Et ben, je peux te dire que ça a chialé. Hein. Et en fait, c'est très réparateur pour des accouchements difficiles, notamment. Ce qui n'était pas mon cas, mais c'était un moment hyper fort. Et je sais que ça peut être vraiment un moment assez magique. Et je pense que pour le bébé aussi, c'est assez beau d'entendre ses parents dire, voilà, là, quand t'es arrivé, c'était comme ça. Et puis, à un moment donné, on avait un petit peu peur pour ton cœur. Et puis, du coup, il y a quelqu'un qui est venu. Ou au contraire, c'était super bien. T'as hyper bien bossé. Moi, je me souviens d'avoir dit à ma fille, on était une équipe, t'as super bien bossé. C'était difficile. Je sais que c'était difficile de sortir de mon ventre, mais on l'a fait ensemble. Et je l'ai encouragée. Et mon bébé était sur mon ventre. Elle avait quelques jours et elle s'est mise à pleurer. C'était très cathartique.
Oh là là.
Non, mais c'est un truc incroyable. J'encourage vraiment tout le monde à faire de l'autonomie. C'est un truc...
J'ai entendu beaucoup parler d'autonomie dans le podcast, mais alors
jamais on t'a parlé de ça.
Rendez-vous post-partum.
Eh ben, alors peut-être que c'est un truc que seule Catherine Dolto fait et ses collègues de son cabinet. Ou alors c'est un truc commun, mais dont les gens ne te parlent pas.
Mais peut-être,
c'est
ouais.
Hyper fort. Et... Et t'as vu l'autonomie? Toi, t'en avais fait? Non, ça n'existait pas trop à l'époque. Pardon. En 1792.
C'était il y a fort longtemps. Mais non, tu sais, quand j'ai découvert ce truc, j'ai été jaloux de ouf parce que j'avais un truc particulier. En fait, en gros, on a conçu ma fille le jour où j'ai lancé Mademoiselle. Et donc, j'étais à fond, je bossais vraiment à fond pendant la grossesse. Et donc, j'allais me coucher vers 3h du mat. Et bon, à l'époque, ma femme dormait. Et en fait, j'avais vraiment ce moment incroyable où elle dormait. Et moi, je venais me glisser à côté d'elle. Et en fait, je posais la main sur le ventre. Et j'avais ma fille qui venait toquer, tu vois. Et j'avais l'impression que je l'avais que pour moi. C'était incroyable parce que ma femme dormait. Ça la réveillait pas forcément, tu vois. Et ça m'avait vraiment... C'était mon moment à moi avec elle tous les soirs. Franchement, je vais pas me coucher avec toi. Je suis désolé.
Tu faisais de l'autonomie avant l'heure, sans le savoir.
Je savais pas. Mais en fait, on a... Vraiment, tu sais, elle venait caresser, etc. Enfin, c'est fou, quoi. Et effectivement, quand j'ai découvert que c'était un vrai truc, je me suis dit, putain, mais merde, j'ai pas pu faire ça dans un cadre un peu plus...
conscient et dirigé.
Et puis, voilà.
Parce que ce qui est génial avec l'autonomie, c'est que moi, j'ai souvenir, mon conjoint, il berçait le bébé dans mon ventre. Et enfin, vraiment, il lui parlait tous les jours et tout... Beaucoup de gens le font spontanément, et c'est ce qui prouve que l'autonomie a une raison d'être, c'est qu'en fait, on a besoin de ça. Je pense que les seconds parents ont besoin quand même de vivre la grossesse au plus proche. Mais ouais, c'était vraiment assez fou. Et donc voilà.
Ok. Comment ça se passe aujourd'hui avec ton garçon que tu veux faire en sorte d'élever dans un monde sans sexisme pour les enfants? J'imagine à quel point ça doit être aussi complexe d'élever un petit mec que d'élever une petite fille. Surtout quand t'es dans une démarche militante, associative, etc., où tu te dis, ok, l'objectif c'est de faire en sorte de rendre le monde un peu meilleur pour les enfants, mais il faut aussi leur filer des bonnes clés, quoi, tu vois, aux gamins.
Ouais, je me mets bien la pression parce que, effectivement, comme je milite...
Un peu trop, la pression?
Non, ça va, là. Ces derniers temps, je me suis un peu fichu la paix, mais au début, ouais. Je me mettais beaucoup la pression avant l'entrée à l'école, parce que avant que tes enfants soient à l'école, t'as quand même... t'es les seules références pour tes enfants. Donc, je me mettais vraiment la pression pour être exemplaire en termes de... d'antisexisme à la maison, donc sur les jouets, sur la littérature, sur les vêtements, J'habillais mon fils en rose. Je mettais des petits bodys à fleurs. Enfin, vraiment, c'était important pour moi de prendre le contre-pied de ce qui se fait dans la société pour montrer aux gens, pour montrer l'exemple. C'était très important. Et ensuite, il est rentré en petite section. Et là, j'ai commencé à bader.
Bah, l'école te ruine tout ton travail que t'as fait pendant trois piges.
Ouais. Donc, et là, je me suis dit, OK, soit tu vas te battre contre tes moulins à vent et tu vas non seulement être malheureuse, mais en plus, ton fils va être malheureux parce qu'il va se sentir ostracisé. De toute façon, il va se mettre très vite contre toi parce qu'il voudra s'intégrer au groupe. Soit tu lâches et puis tu reviendras plus tard. Donc, j'ai lâché. Et donc, mais bon, quand même, il y a quelques graines qui ont germé. Il est quand même bien plus ouvert d'esprit que ce qui... Voilà, que si j'avais pas quand même mis des principes très tôt, de ne serait-ce que... Je dis toujours à la maison, tout existe, tout existe. Il n'y a pas de métier pour les femmes, il n'y a pas de métier pour les hommes, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui soit uniquement réservé à une seule partie de la population. Et ça, je crois que c'est quand même bien, c'est bien intégré. Mais oui, aujourd'hui, il est en grande section. Si je lui amène une jupe à paillettes, il va pas mettre la jupe à paillettes. Mais il se déguise en Reine des Neiges à la maison. Ça, c'est cool. Ma fille a voulu une robe Reine des Neiges, je lui ai acheté. Et mon fils, il a dit, moi aussi, j'en veux une. Et donc, j'en ai pris deux. Et ils font, ils se déguisent ensemble.
Bien
ça,
sûr.
C'est mignon.
Non, mais moi aussi, je voudrais être Elsa, c'est ça?
Ah oui, Elsa.
Bien sûr.
Ouais.
Libéré, délivré, quoi. Ouais. Je ne m'en tirerai plus jamais, hein. Franchement. La base. Hein.
Non, mais c'est très cool qu'à la maison, il puisse se sentir libre d'être ce qu'il veut, de se mettre du vernis, de se maquiller. Bon, on se maquille à la maison. Et il est quand même délesté de beaucoup de normes viriles à la maison. Et donc, si à l'école, il veut être comme les autres, et c'est normal.
Il est obligé de jouer un peu le jeu social,
ouais,
c'est sûr.
Mais je sais qu'au fond de lui, he knows better. Il sait mieux que ça.
Merci de traduire.
Ouais. Et puis bon, ouais, j'ai lâché sur plein de trucs, c'est obligé. C'est obligé parce que trop en faire, tu vas juste braquer tes enfants aussi.
Ouais.
C'est un truc que tu comprends au fur et à mesure.
Et tu finis par, je crois, un peu le faire que pour toi. Et pas pour ton môme, en fait.
Ouais. Pour se prouver des choses à soi-même.
C'est ça, ouais. Ou pour l'image que t'as de toi-même par rapport à l'assaut, etc. Tu vois, où tu te dis, faut que je sois forte, ou faut que je montre l'exemple. Mais bon,
ouais.
C'est sûr qu'à la fin, c'est la vie de tes enfants, quoi.
Ouais, à un moment donné, tu te confrontes à la réalité de la vie et de la société, et on peut pas se battre seul. Donc, on fait tous et toutes ce qu'on peut. Ce qui est aussi un credo de l'assaut. L'assaut, on dit toujours, vraiment, on fait comme on veut et comme on peut. Et c'est souvent le mieux qu'on puisse faire.
Toujours, je crois.
Voilà.
Franchement, j'ai plus de 200 interviews de darons et de daronnes. Il n'y en a pas un qui m'a dit, tu sais, j'ai pas du tout fait de mon mieux. Voilà. Tout le monde fait de son mieux, en fait.
Ouais, avec les armes qu'on a, la fatigue, l'énergie, les moyens, les moyens financiers, culturels, le géographique qu'on a. On fait vraiment ce qu'on peut. Et je sais que moi, j'ai des... High standards, comment on dit en français
des
ça?
Des standards élevés.
Voilà, j'ai des standards élevés. J'essaye vraiment d'être au max de l'antisexisme dans la vie de tous les jours. Bah, j'y arrive pas. Évidemment que j'y arrive pas. Mais.
Bah oui, on est des êtres grégaires, hein. On est des êtres sociaux en tant qu'humains.
On a des biais inconscients déjà, et j'en ai. Ouais, je le sais. Et puis. On peut pas être tous les jours irréprochable. C'est impossible.
Donc finalement, tu as lâché prise aussi.
Ouais, j'ai lâché prise aussi là-dessus.
Franchement, c'est plus sympa la vie en lâchant prise ou sans lâcher prise?
Je sais que c'est une question rhétorique. Je n'y répondrai pas.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, Claire, dont tu aurais aimé parler?
Autour de la parentalité?
Ouais.
Il y a mille sujets qu'on pourrait aborder, mais là, que j'attends de toi, on pourrait parler du livre auquel j'ai contribué, qui s'appelle « Mère sans filtre ». J'ai coécrit dans un livre je vais recommencer parce que c'est très fouillé ce que je viens de dire.
Je te présente Renaud qui est en train de monter cet épisode. Et
alors,
qui va...
Renaud, tu coupes tout ça et on recommence. Non, tu m'as pas parlé d'un livre que j'ai coécrit avec d'autres autrices féministes qui s'appelle Mère sans filtre et qui est un recueil en fait d'essais féministes. On a toutes été contactées par une journaliste qui s'appelle Camille Abbé pour parler de maternité de féminisme et plus précisément du déclic féministe à travers la maternité. Et j'ai moi écrit mon chapitre sur l'éducation des petits garçons.
Ouais.
Et mon texte s'appelle « Le pull rose de mon fils ». Donc tout part de là. Et les autres textes sont incroyables. C'est des nanas super, genre René Grosard, Ilana Weisman, Elodie Font. Enfin, vraiment des nanas en or, toutes avec une super plume. Moi, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard du groupe. Il y a Julia Kerninon, qui est romancière, qui ouvre le livre avec un texte sublime. Et chacune, on nous a proposé d'écrire sur un angle spécifique et sans se concerter, on a toutes choisi des trucs différents.
Ok.
Donc, t'as.
Comme quoi ?
Ouais, bah, par exemple, la fatigue, l'homoparentalité, la nostalgie de sa vie d'avant. Moi, c'est l'éducation non sexiste. Ilana, c'est l'invisibilisation des mères. Donc, tout le monde y trouve son compte. Okay. Et c'est des textes courts, donc c'est facile à lire, tu vois, avec le peu de temps que nous avons en tant que parents. Et je suis très fière d'avoir écrit dans ce livre.
Ben bravo. Je mettrai le lien.
Ouais, carrément. Hein? Mère sans filtre, chez Solar. Et ça se lit très facilement.
Trop bien. Puis je mettrai aussi le lien de ton asso.
Ouais.
Et le lien de... Enfin, partout, si vous voulez contacter Claire, comme ça vous pourrez la contacter, quoi.
Ouais, bah on peut me trouver facilement.
Ouais. Merci beaucoup, Claire.
Merci
c'était
à toi.
C'était vraiment cool.
Non, c'était très cool et j'ai hâte de voir tes dessins.
Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.